Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polothèque.
Et préparé par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, cela va faire 70 ans qu'a eu lieu le 6 avril 1944 la rafle d'Izieux. 44 enfants et 7 moniteurs raflés par des soldats allemands sur ordre de Klaus Barbie. Une grande cérémonie a eu lieu ce matin même à Izieux pour le 70e anniversaire de la rafle, en présence en principe du Premier ministre Jean-Marc Ayrault et du président du Parlement européen Martin Schulz. Cette histoire d'Izieux, Dominique Messica, vous la connaissez particulièrement puisque vous êtes membre du comité scientifique de la maison d'Izieux, directrice des éditions Talendier, et que vous venez d'écrire un livre, L'institutrice d'Izieux, paru aux éditions du Seuil. Une histoire qui ne s'arrête pas avec la mort des 44 enfants et des adultes arrêtés ce jour-là, mais qui va traverser le siècle, notamment avec le procès Barbie, avec la création du mémorial de la maison d'Izieux en 1994. Alors vous avez choisi, Dominique Messica, un témoin particulier pour accompagner cette histoire. C'est l'institutrice de la colonie d'Izieux, Gabrielle Perrier, une très jeune femme à l'époque, relativement inconsciente de la situation des Juifs pendant la guerre. Pourquoi ce choix ?
Comme vous l'avez dit, cette histoire de la rafle d'Izieux, je la connais depuis très longtemps. J'y ai travaillé d'abord en produisant le procès Barbie à la radio, à la télévision, sous forme de DVD. Donc ce procès Barbie, et en particulier la rafle d'Izieux, je la connais. Je crois la connaître, en tout cas. En revanche, il y a cette institutrice des 44 élèves, des 44 enfants, dont on ne sait pas grand-chose. Et moi-même, je la rencontre. Le 6 avril 2005, je suis présente à la cérémonie. Et dans le cadre de la campagne de témoignages que je réalise pour le compte de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de l'INA, mission m'est donnée de recueillir son témoignage et surtout son accord pour venir témoigner. Je lui demande, je me présente, je lui demande, et elle décline ma proposition de manière extrêmement douce, mais ferme, à la fois en me regardant avec un air triste, quelque chose dans le regard qui me surprend, et en même temps une extrême gentillesse. Et elle me dit non, je ne le souhaite pas, et elle fait un pas de côté. Et puis, on est en 2005, et voilà, en 2014, j'ai eu envie, enfin, il y a déjà 2-3 ans que j'y travaille, de raconter son histoire.
Est-ce que vous pouvez nous la présenter, à l'époque, cette jeune femme ? Comment elle arrive à Izieux ?
C'est une toute jeune femme, Gabrielle Perrier, à peine 21 ans, quand à l'automne 43, elle habite à côté d'Izieux, à Colomieux, et elle est institutrice suppléante, c'est-à-dire qu'en réalité, elle n'est pas encore titulaire de son poste d'institutrice, elle est toute jeune, elle a 21 ans à l'automne 43, et elle se rend à la conférence pédagogique où elle interroge l'inspecteur assez timidement, en lui demandant s'il y a quelque chose pour elle, elle allait de remplacement en remplacement. Et l'inspecteur lui dit, un instant, je vais aller me renseigner. Il téléphone et quelques instants plus tard, il lui dit, vous irez à Izieux jusqu'à la fin de la guerre. C'est une colonie d'enfants réfugiés. Pour elle, c'est une aubaine, enfin, un poste.
Et en arrivant sur place,
elle est, comme toute institutrice, d'abord elle découvre la colonie d'Izieux, donc ce village au perché, au pied du Jura, dans le Bas-Bugey où elle habite. Et c'est une magnifique demeure qui est une demeure bourgeoise où les enfants de la région ont l'habitude de venir passer leur colonie. Donc elle découvre des enfants qui jouent devant la maison, une équipe, une femme qui se présente à elle, qui s'appelle Suzanne Reifmann. Elle lui dit « Je suis médecin, je suis la doctoresse de la maison d'Izieux. La directrice Madame Zlatin est absente pour vous accueillir, mais vous ferez sa connaissance dans peu de temps. Voilà votre classe. » Et Gabrielle Perrier est une institutrice, une fois de plus, comme toutes les institutrices, qui se soucie de bien faire classe. Donc, elle va, le premier jour de la classe, elle va prendre la liste d'appels. Et la première surprise, c'est que les noms ont une consonance un peu étrange à ses yeux et à ses oreilles. Mais elle sait que ce sont des enfants réfugiés de l'Hérault. Ma foi, elle fait avec. Sauf qu'elle leur demande, et elle le dira plus tard, ses enfants étaient mûris avant l'âge. Elle va leur demander qui ils sont.
Qui sont leurs parents, c'est ça qui est...
Ouais. C'est ça qui est pour elle le plus triste, c'est qu'en fait elle se rend compte qu'en demandant, comme, une fois de plus, comme toute institutrice, parce qu'il faut toujours se souvenir que Gabrielle Perrier est avant tout une institutrice qui a en face d'elle 44 élèves. Ces écoliers, pour elle, ce sont des écoliers comme les autres. Donc elle leur demande quel est le nom de leurs parents, leur dernier domicile, puisqu'elle sait qu'ils sont réfugiés, qu'ils ne sont pas du budget. Et là, elle entend des phrases qui la glacent, puisqu'elle il y en a un qui lui dit « Mes parents sont morts ». Et tout d'un coup, elle réalise, ou un autre lui dit « Mais je ne sais pas où sont mes parents ». Et elle comprend... Au fond, personne ne lui avait dit auparavant, c'est que ses enfants, qui étaient des enfants juifs, avaient été internés dans des camps, dans le sud de la France, là où Vichy internait les juifs étrangers et les juifs qui avaient fui l'avancée allemande. Et que ces enfants avaient été séparés de leurs parents. Certains étaient orphelins, certains étaient sans nouvelles de leurs parents. Et là, ils étaient hébergés dans cette grande maison du Babugé.
Vous l'avez évoqué, il y a un personnage fondamental dans cette histoire, c'est la directrice de la colonie.
Cette femme qui s'appelle Sabine Zlatin est une femme hors du commun. C'est une infirmière de la Croix-Rouge qui a été exclue par les lois anti-juives et qui, avec son mari Miron Zlatin, a entrepris une mission vraiment exceptionnelle, à savoir de sortir le maximum d'enfants de ces camps d'internement de Rivesaltes, de Gurs, du sud de la France. Et donc, elle s'est employée à obtenir des autorisations pour des raisons médicales ou toute autre raison, obtenir des parents qu'ils acceptent de se séparer. Et elle les a installés dans un sanatorium à Palavas-les-Flots. Le souci, c'est que novembre 1942, la France est occupée, qu'il faut trouver un havre de paix où les enfants pourraient être à l'abri. Et elle obtient, grâce au sous-préfet de Belay, du Bugey, de l'Ain, elle obtient la possibilité d'implanter sa colonie et une cinquantaine d'enfants au printemps 1943 dans ce fameux village d'Izieux.
Alors, une cinquantaine d'enfants en continu, puisque beaucoup vont être de passage, certains vont partir vers la Suisse, c'est bien ça? C'est vraiment une plateforme
C'est une véritable planque, une planque et une plaque. C'est-à-dire, c'est une planque pour ces enfants hébergés et sortis des camps. Et c'est aussi une plaque pour... c'est le lieu qui leur permet de faire halte, de se restaurer un petit peu, d'être en meilleure santé. Et puis, ils sont soit dirigés vers la Suisse, soit dans certains cas vers d'autres, dans des familles d'accueil, récupérés par des parents, des oncles, des tantes. Mais certains ont leur... comme le petit Georgie, il a sa mère est à 20 km dans un sanatorium. Ils ne sont pas forcément orphelins. Ils sont parfois... ils correspondent avec leurs parents. Parfois, ils savent, pour les plus grands en particulier, que leurs parents sont partis à l'Est, mais d'autres espèrent encore et ne savent rien de la destination de leurs parents.
Alors, est-ce qu'on peut revenir avec vous, Dominique Musiquin, sur ce 6 avril 1944 ? Donc, il y a à ce moment-là 44 enfants dans la colonie. La directrice, elle...
Alors, Sabine Zlatin est partie à Montpellier pour essayer de trouver un autre lieu pour héberger ses enfants. Elle sait qu'il faut disperser, que les nazis sont de plus en plus près d'obtenir et d'organiser de plus en plus de rafles, y compris pour les enfants, bien évidemment. Et par conséquent, elle cherche le moyen de disperser la colonie. Donc Sabine Zlatin, la directrice, est absente. Gabrielle Perrier, l'institutrice, elle a quitté la veille au soir, la veille du week-end, du long week-end de Pâques, comme on dirait aujourd'hui. Elle a quitté la colonie, les enfants lui ont dit au revoir mademoiselle, elle a dit au revoir les enfants, ce sont les vacances de Pâques, veille du jeudi saint. Donc elle n'est pas là, elle est en fait au marché à Belley le jeudi matin du 6 avril, le jour de la rafle, matinée de la rafle. Elle est à Belley en train de faire son marché et c'est là où elle va apprendre la rafle. Cette rafle, on sait que c'est, on le saura plus tard, mais sur le moment, ce qu'elle sait, c'est que les Allemands ont emmené tout le monde. Et pour Gabrielle Perrier, pour l'institutrice, c'est un choc, un véritable choc dont elle ne se remettra jamais. Elle est la veille au soir, une fois de plus, elle est partie insouciante, laissant des enfants heureux d'être en vacances. Et les enfants ont été pris alors qu'ils s'apprêtaient à prendre leur petit déjeuner et que la maison où il faisait beau et tout était tranquille. On ne pouvait pas imaginer que les nazis iraient jusque dans ce petit village.
Vous le montrez très bien dans votre livre, justement, cette... vous dites, jamais personne ne peut imaginer qu'une classe entière disparaisse comme ça du jour au lendemain. Et elle va le vivre seule, puisque le préfet va évidemment prendre, pas forcément ses distances, mais en tout cas, cette classe n'était pas tout à fait clandestine, mais enfin, pas franchement non plus. C'était une liberté qu'ils avaient prise. Donc, il n'y a aucune prise en charge, elle n'a aucun contact avec personne, et elle va vivre pendant des années avec ce traumatisme.
Et ce silence, ouais. Parce qu'au fond, ces 44 enfants et leurs moniteurs s'évanouissent du jour au lendemain. Pour elle, ce sont des fantômes dont elle apprendra en 1945, au détour d'une conférence donnée par Sabine Zlatin, qu'ils ne reviendront pas. Mais d'où ne reviendront-ils pas? Elle ne sait pas. Elle est simplement seule, isolée. Et pourquoi? Parce que, d'abord, c'est une femme discrète, c'est une femme modeste, c'est une femme extrêmement humble, presque effacée, timide. Elle n'est jamais timide quand elle est face à ses élèves, parce que là, elle sait se faire respecter. Mais cette femme, elle n'est pas victime, elle n'est pas parente de victime, elle n'a pas de lien. Qui la connaît? Oui, le sous-préfet, l'inspecteur qui la nomme immédiatement dans une autre classe. On lui dit qu'elle est saine et sauve, ce qui est vrai.
Oui, qu'elle a de la chance.
Qu'elle a de la chance. À qui se plaindre? À qui se confier? Elle est saine et sauve. Elle n'a aucune raison. Qui se souvient d'elle? Les enfants qui ont été ses élèves, mais ils savent, la plupart, ceux qui ont échappé à la rafle, ont été placés ailleurs. Et ont-ils gardé en mémoire ce lieu? Pas vraiment, pas vraiment.
Alors vous retracez également les différentes étapes qui ont conduit à la reconnaissance du drame d'Izieux depuis le procès de Nuremberg en 1946 jusqu'à la reconnaissance du rôle de Klaus Barbie. Ce procès Barbie, c'est aussi un moment très important pour notre institutrice, puisque alors qu'elle est déjà à la retraite, c'est la première fois qu'elle va parler publiquement.
C'est une véritable délivrance pour elle. Enfin, publiquement, officiellement, elle va prendre la parole pour dire à quel point ses enfants étaient ses élèves étaient ses enfants, qu'elle les croyait hors de danger, qu'elle n'avait pas peur, qu'elle n'avait jamais vu une étoile jaune, jamais vu un Allemand, et que au fond, ses élèves, elle les avait aimés comme on aime ses élèves, d'autant plus qu'elle a passé 5 mois avec eux, qu'elle déjeunait, qu'elle prenait le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner à la colonie. Donc elle partageait vraiment
leur
quotidien. Et puis soudain, non seulement elle va pouvoir à la barre dire son histoire, ce qu'elle a vécu, elle va surtout renouer avec tous les anciens d'Izieux. Et en particulier, retrouver Léa Feldblum, la seule monitrice rescapée d'Auschwitz, qui était partie en Palestine sans avoir moyen de la recontacter. Donc pour elle, c'est une manière de renouer avec son passé.
Oui, c'est ça qui est aussi incroyable dans votre description du procès, c'est que d'un seul coup, l'histoire reflue brutalement et avec ses aspects positifs, des retrouvailles extrêmement fortes.
Des retrouvailles, et puis elle comprend au fond l'histoire qui s'est déroulée sous ses yeux. c'est qu'elle va comprendre aussi ce que les enfants, ce qui menaçait les enfants, ce qu'il est advenu d'eux, puisqu'on va raconter, Léa Feldboom va raconter comment les enfants, les 44 enfants, sont transportés à Lyon, au Fort Montluc, puis à Drancy, puis à Auschwitz. Il y aura des témoins pour dire quels ont été les derniers moments des enfants à leur arrivée à Auschwitz. Et toute cette histoire, elle se reconstitue sous ses yeux pendant le procès. Et pour elle, c'est vraiment une délivrance.
Et c'est dès ce moment-là, cela va devenir un véritable devoir de témoigner pour elle, puisqu'elle va ensuite s'impliquer donc dans la maison d'Izieux.
Elle va absolument, à partir du moment à partir du procès Barbie et de l'ouverture du mémorial d'Izieux, pour lequel elle sera évidemment consultée, associée, puisqu'on lui demandera de décrire sa classe.
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est pour elle, c'est un moment très fort, parce qu'elle dira, ben voilà, les tables étaient disposées de telle sorte, j'avais au premier rang, j'avais Raoul, j'avais Jacques, elle identifiera d'ailleurs chaque enfant
sur les photos,
oui. Au fur et à mesure, elle réussira à identifier, comme elle dit, elle se souvenait plutôt des caractères que des prénoms ou des noms, mais elle saura dire pour la plupart d'entre eux une anecdote, leur redonner un visage et un nom, ce qui est absolument inouï. Et puis chaque fois qu'elle sera sollicitée, elle répondra présente, elle sera évidemment toujours là aux cérémonies, toujours discrète, toujours silencieuse. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller sur ses traces, pour essayer de montrer à quel point c'est un témoin oublié de l'histoire, une femme discrète, oubliée de l'histoire, effacée, mm-hmm. comme toujours au deuxième plan, alors qu'elle est un témoin de l'histoire, de la grande histoire.
Pour revenir à le procès Barbie a permis évidemment donc de mettre en évidence sa responsabilité, mais il y a aussi la responsabilité de Français, notamment on est quasiment certain que la rafle a eu lieu suite à une dénonciation, c'est bien ça ?
En fait, je pense que le mystère reste entier. Il n'y a pas, sans doute pas un dénonciateur, en tout cas on ne le connaîtra pas.
D'accord.
Ce que l'on sait...
Parce que plusieurs noms avaient été évoqués, le maire...
Oui, mais...
Un Alsacien,
oui. En effet, il y a, le jour de la rafle, présent sur place, un réfugié lorrain qui semble accompagner les Allemands sur place. Sans aucun doute, il a joué un rôle. Maintenant, les preuves qu'il ait été le dénonciateur, il n'y en a aucune. Non, ce qu'il faut arriver à comprendre, et c'est pour nous, je pense, extrêmement difficile, c'est que cette maison n'est pas une maison cachée, ce n'est pas une maison clandestine. Tout est officiel. Le sous-préfet a donné son autorisation pour l'ouverture de cette colonie. Le ministère de l'Éducation nationale a désigné Gabrielle Perrier comme institutrice. La gendarmerie, qui ferme d'ailleurs les yeux sur les allées et venues des éducateurs, a des papiers qui enregistrent la présence de ces juifs là. Il y a eu des rafles dans toute la région, y compris à Lozé, à Lugif. Il y a des courriers qui sont adressés à la colonie. La maison n'est pas cachée. Ce qui est incompréhensible, et encore aujourd'hui pour tous ceux qui vont à Izieux, je les invite vraiment à se rendre sur place, c'est que ce village, cette maison est vraiment cachée. Elle est même à l'extérieur du village. Il y a une butte qui la cache des visiteurs de loin. Donc on a du mal à saisir, et je crois que justement on saisit le zèle de Klaus Barbie et de Nazis pour aller chercher en avril 44 44 enfants. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, à accepter, parce que c'est inacceptable, tout simplement. Mais il n'y a pas de... Peu importe, ce qu'il y a, c'est que une patrouille allemande, que Klaus Barbie était là, présent sur ou pas ce jour-là, en tout cas, lui fait le télégramme le soir pour dire que la mission a été accomplie, c'est que quand même, il y a une patrouille d'Allemands qui prend soin de faire un détour et de monter dans le village pour récupérer 44 enfants et 7 adultes. C'est ça qui est le plus atroce. Après, dénonciation ou pas...
Finalement, c'est accessoire.
C'est presque... Pour moi, je trouve ça secondaire, oui.
Vous l'écrivez dans le livre « La rafle d'Izieux », c'est une histoire que les Français connaissent depuis, évidemment, le principalement depuis le procès Barbie. C'est une histoire qui les a frappés. Il y a même eu des téléfilms, notamment oui. un qui apparemment a beaucoup déçu Gabriel Perrier. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire qui a marqué
la Oui, c'est une tragédie. Alors, c'est une tragédie qui, localement, est extrêmement présente. Hein. Dans la région, c'est une mémoire qui est très vive et qui est toujours entretenue. Le procès Barbie lui donne une résonance française et mondiale. C'est-à-dire que tout d'un
coup... Pourquoi, à votre avis ? Parce que ce sont des enfants, principalement ?
C'est vraiment le symbole de l'enfance assassinée.
La fin de la guerre ?
La fin de la guerre, on est au printemps, on est au printemps 44. Que représentent 44 enfants au regard des combats ? Eh bien, même là, le zèle nazi, l'organisation, vraiment le zèle... montre qu'il n'y a pas de limite à l'horreur nazie. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est une sorte d'électrochoc qui a lieu au moment du procès Barbie et dont l'onde de choc ne cesse encore aujourd'hui d'être présente. Et c'est vrai que quand on va à Izieux, une fois de plus, qu'on est dans la salle de classe, qu'on est dans cet endroit qui est vraiment idyllique, un havre de paix dans un paysage, le paysage du Bugey, qui est absolument magnifique, au calme, il n'y a que le bruit des oiseaux dans la nature. On se demande comment, effectivement, Gabriel Perrier ne pouvait pas ne pas se sentir à l'abri et loin des fracas de la guerre.
Vous évoquez cette maison d'Izieux. Est-ce qu'il y a des activités qui sont proposées particulièrement dans le cadre de cette commémoration ?
Alors, à l'occasion là de 70e anniversaire de la rafle, il y a effectivement un certain nombre de manifestations. Mais il faut aller visiter ce mémorial et cette maison. Il faut y voir les documents. Il faut lire et regarder tous les documents que possède le mémorial d'Izieux. Et une fois de plus, je trouve que les lieux sont des lieux de mémoire et d'histoire et qu'on comprend beaucoup mieux quand on est sur place encore que de lire ou de voir des films. Je crois que vraiment, il faut aller sur place, s'y rendre, se pénétrer de l'atmosphère de ce lieu, et essayer d'imaginer ce que cette institutrice, Gabrielle Perrier, a pu vivre 5 mois durant avec ses enfants, un peu isolés du reste du monde, dans une sorte de parenthèse heureuse.
Votre livre, en tout cas, lui rend véritablement hommage. Et on sent effectivement cette atmosphère que vous décrivez. J'invite donc tous les auditeurs à aller voir, bien sûr, la Maison d'Izieux, mais aussi à lire votre livre, donc L'Institutrice d'Izieux, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Je rappelle que nous commémorons aujourd'hui même le 70e anniversaire de la rafle d'Izieux. Je mentionne aussi à cet égard le film de Romain Icard, Izieux, des enfants dans la Shoah, et la réédition du livre de Pierre-Jérôme Biscara, Izieux, des enfants de la Shoah, aux éditions Fayard. Il y a également l'apparition du livre d'Hélène Weisbord, présidente de l'association de la maison d'Izieux, Alex ou le porte-drapeau, aux éditions Christian Bourquois, consacrée à Alexandre Allenbrenner, dont les deux sœurs étaient à la colonie d'Izieux, et que certains de nos auditeurs connaissent bien, puisqu'il les porte-drapeaux de l'Association des fils et filles de déportés de France, présidée par Serge Klarsfeld. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.